J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Okapi. Et voici notre nouveau numéro. Lors de sa présentation au Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres a notamment fait part aux membres du Conseil de sécurité de l'évolution de la situation politique en RDC. Le secrétaire général a entre autres exprimé quelques inquiétudes qui, selon lui, dans son rapport, pourrait priver à la RDC des élections crédibles en 2023. Parmi ces inquiétudes figurent la loi sur la nationalité et la pression judiciaire exercée sur certaines personnalités politiques comme un moyen de neutraliser des éventuels candidats présidents à la présidentielle 2023. Alors comment commentez-vous ces regards critiques? Nous en parlons donc avec vous, chers auditeurs, ici au pays et à l'étranger. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Il y a Jocelyne Mukendi et Paul Badeniam qui assurent et qui concourent à la production et à la réalisation de ces programmes coordonnés et présentés par J.R. Lungembo Luabung Andji. Vous pouvez nous appeler au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Augustin Mangemossi, vous êtes internationaliste, professeur des universités en RDC. Alors, lorsque certains parmi les observateurs disent que finalement c'est un rapport, cette fois-là, pas purement technique, mais politique. Est-ce que ils ont raison, professeur Augustin Mangemossi?
Bonjour, cher Julien Mangembo. Bonjour, chers auditeurs de la radio Capi. Un rapport technique par rapport à un rapport politique, cela va de soi. C'est par rapport à celui qui interprète le rapport du secrétaire général. En fait, lui, il est en train de relayer. C'est bien dit qu'il est en train de relayer une certaine information selon quoi que le régime de Kinshasa essaye de neutraliser, je dis bien, essaye de neutraliser des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2023 à travers la loi sur la nationalité, aussi les allégations de détournement de deniers publics ou de fonds à l'endroit du sénateur Augustin Matataponio Mapono. Si le secrétaire général des Nations Unies a fait un rapport au Conseil de sécurité, ça c'est dans ses attributions. C'est lui qui fait les rapports et c'est le Conseil de sécurité qui tire les conséquences. Dire que c'est un rapport politique et c'est pas un rapport technique, comme je vous ai dit, cela va de soi. Donc moi je pourrais vous dire simplement qu'il a fait un rapport.
Alors que traduit réellement ces messages?
Bon, M. Antonio Guterres, il veut faire comprendre au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il y a un petit problème qui touche, entre guillemets, la démocratie et la liberté d'expression ou la liberté pour les uns et les autres de pouvoir postuler à l'élection présidentielle de 2023. Et moi, je souligne que ce ne sont que des allégations, parce que le secrétaire général des Nations Unies laisse entendre. C'est-à-dire, il ne confirme pas, il laisse entendre. Et nous devons souligner cela, il laisse entendre. Donc, c'est plutôt des signes ou peut-être une certaine analyse et cela tire l'attention du secrétaire général afin qu'il informe le Conseil de sécurité.
Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une pression? Une forme de pression tacite.
Oui, Dire que c'est une pression, c'est non. D'abord, c'est un rapport. C'est un rapport qui est adressé au Conseil de sécurité. Vous savez que ce n'est pas les secrétaires des Nations Unies qui votent. C'est le Conseil de sécurité qui vote. Lui ne fait qu'un rapport. Donc lui, il fournit les éléments et le Conseil débat. Ensuite, le Conseil entérine à travers une résolution. Or, dans les cas d'espèce, nous ne sommes pas là. C'est même pas une pression, il n'y a pas une résolution. C'est un constat. Un constat fait par les secrétaires généraux des Nations Unies.
Mais un constat qui peut aboutir à une résolution. Si jamais le Conseil de sécurité prenait en compte un tel rapport.
Aboutir si jamais les allégations étaient fondées.
Alors, mettons-nous dans le cas de figure, les allégations sont fondées. Quel peut être l'impact de ces rapports?
Bon.
Ou que peut-on redouter à l'avenir?
Non. Au stade actuel, nous ne sommes pas en train de dire qu'il y aura une résolution. Je ne crois même pas qu'il y ait avoir une résolution par rapport à ce qui a été déposé là-bas comme rapport. Parce que, quand vous lisez un peu, lui-même, le secrétaire général, il n'est pas en train de confirmer les allégations. Il est en train de se poser la question. Est-ce que l'on veut neutraliser un certain nombre de candidats par rapport à la loi sur la nationalité ou carrément par rapport au procès ou par rapport à la justice? Et vous savez que la justice d'un pays, elle est toujours indépendante, hein, au nom du principe sacro-saint de la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État. Même lui-même, le secrétaire général des Nations Unies ne peut pas s'ingérer par rapport à la marche que doit suivre la justice d'un pays ou d'un État. Mais néanmoins, lui, il est en train de faire comprendre au Conseil qu'il nous semble qu'en RDC, il y a un problème par rapport à la loi sur la nationalité à l'élection présidentielle de 2023. Il appartient maintenant à la partie congolaise de prouver le contraire. C'est à la partie congolaise, vous savez que nous avons un représentant aux Nations Unies, et le représentant va argumenter avec les arguments, un point de vue.
Alors, mais qu'est-ce qui explique le silence du régime de Kinshasa sur cette question?
Au fait, le rapport est déposé. Comme je venais de vous le dire, nous avons un représentant permanent là-bas. Donc, il n'appartient pas directement aux dirigeants ici à Kinshasa de répondre. Et le ministre des Affaires étrangères ici, avec tout ce qu'il a comme desk, ils vont envoyer aux Nations Unies un certain nombre d'éléments pour permettre à notre représentant qui est là de pouvoir interjeter ou peut-être de proposer ou de répondre d'une manière claire par rapport aux allégations qui sont mise à l'encontre de la RDC.
Voilà. Alors, professeur, il y a quand même autant d'inquiétudes sur cette question qui vient quand même soulever les débats sur la relation entre le régime actuel et le Conseil de sécurité ou encore le système des Nations Unies. Est-ce que là, vous partagez l'avis qu'il faut relancer les débats sur les rapports entre les deux institutions, entre l'institution et l'État congolais?
En fait, les rapports entre les Nations Unies et l'État congolais sont les rapports entre une organisation internationale et un État. L'État congolais est membre de l'organisation internationale que nous appelons les Nations Unies. Mais les Nations Unies fonctionnent sur base d'un certain nombre de préalables. D'abord, les recommandations du Conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ensuite, les résolutions du Conseil de sécurité. Alors, le secrétaire général, lui, c'est lui qui est, au fait, comme dirais-je, l'inspecteur. C'est lui qui inspecte et c'est lui qui fait rapport à la fois à l'Assemblée générale, mais aussi au Conseil de sécurité. Dans les cas d'espèce, les rapports ne sont pas... on ne peut pas aller directement dire que non, c'est déjà une crise ou quoi que ce soit. Non, 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 non.
Donc les rapports sont jusque-là au beau fixe.
Que les Nations Unies... ont formulé, il appartient à la partie congolaise de se défendre. Voilà.
Voilà, merci beaucoup, professeur Augustin Mangemossi. Nous vous gardons en ligne le temps pour nous d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont émis les vœux de pouvoir réfléchir ensemble avec nous sur cette question après la présentation faite par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité. Alors, un rapport qui traduit notamment quelques inquiétudes, et nous venons de l'évoquer avec vous, la loi sur la nationalité et la pression judiciaire exercée sur certaines personnalités politiques comme un moyen de neutraliser les éventuels candidats présidents. Ceux qui nous ont rejoints, nous allons les accueillir bientôt, mais tout en rappelant ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi participer à ces débats en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Alors Christian, vous êtes avec nous, vous êtes à Kinshasa. Christian, bonjour.
Bonjour Gérard et bonjour à l'invité.
Alors que traduit les messages du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations Unies, selon vous?
Bon, en tout cas, nous pensons que c'est pratiquement la position que la communauté internationale par les Nations Unies est en train de prendre. Mais seulement, selon nous, nous pensons que ces allégations pourront être... nous pourrons croire à ces allégations si seulement le secrétaire général aurait dit peut-être que la tenue des élections à date issue pourrait être hypothétique si les tentations autour du choix du président de la CENI continuent toujours à tourner au vinaigre. Mais le fait pour lui de douter déjà sur la crédibilité des élections à venir, en tout cas personnellement, nous pensons que c'est faire une mauvaise lecture du processus électoral dans notre pays, parce que c'est en fait une chose qui est encore à l'avenir. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons dire que par rapport à tout ce qui s'est fait, les décors sont plantés, mais écoutez, tous les décors ne peuvent en aucun cas aboutir à une même conclusion. Et donc, dans la même optique, le fait pour lui déjà de qualifier les poursuites judiciaires que les magistrats congolais font contre les délinquants d'habitude, pour lui, le fait pour lui de les considérer comme étant une chasse aux sorcières, c'est vrai, nous pouvons dire que dans ces régimes, tout n'est pas blanc. Mais seulement, il ne faudrait pas qualifier ces poursuites judiciaires comme étant une chasse aux sorcières. C'est vrai, nous condamnons le fait que certaines personnes, notamment ce qu'a été Mlengondo, a été poursuivi pour le détournement des frais Covid, des fonds Covid, et aujourd'hui, il a été, je crois, libéré sous condition peut-être, ce qui n'est pas le cas avec d'autres. Mais il ne faudrait pas dire que c'est de la chasse aux sorcières, parce qu'aujourd'hui, nous savons que si la situation congolaise est dans...
Oui, allô? Oui, allez-y, vous êtes en ligne.
Oui, et donc si aujourd'hui la RDC est paupérisée, c'est justement à cause de cette délinquance d'habitude. Et donc, il n'y a que la justice qui ne peut vraiment... C'est la justice qui peut faire une lumière par rapport à tout ce fait. Et donc, aujourd'hui, sa position pourra justement décourager les...
Oui, mais Christian, comment expliquez-vous les silences du régime de Kinshasa?
Je crois que le régime est en train de chercher des pistes, en fait, de réfléchir pour voir comment, de voir des moyens, comment répondre à cela. Et il faut aussi le dire que les communicateurs ou encore le ministre de l'information n'est pas comme Mende. Vous savez, Mende, c'est quelqu'un qui cherchait ce genre de choses pour vraiment faire une sortie médiatique trop poignante. Et c'est pas le cas avec celui qui est ici. Donc, il cherche comment, lui, peut-être, il pourrait être trop diplomatique. Mais seulement, nous, étant que Congolais, nous disons qu'en tout cas, cette manière de voir les choses risquerait de décourager les magistrats et puis encourager les délinquants d'habitude. Et du coup, cela va donner de la matière à ces délinquants pour dire, voilà, c'est la chasse aux sorcières qui est la justice est en train de faire contre nous.
Or, oui, mais ce qui est curieux dans ces rapports, il y a quand même des noms qui sont cités. Parce qu'on se rend compte que finalement, on a cité les noms des Matata Ponyo et aussi les noms des Katumbi.
Mais, Jean-Louis, vous savez, ces gens-là ont des lobbying. Qui ne sait pas que Katumbi a un grand lobbying de Matata? Ils ont des lobbying. Alors, ils cherchent comment la communauté internationale pourrait justement leur blanchir contre la justice congolaise et dans l'opinion. Or, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas là la question. Et ici, tout le monde le sait que Matata Ponyo, c'est l'homme qui a planté Bukangalonzo, il a récolté ce qu'il a récolté. Et donc, aujourd'hui, vraiment, il faut que la justice fasse son travail. Donc, si demain, Joseph Kabila est également poursuivi, je crois que le secrétaire général pourrait également prendre une position, la même position qu'il a prise aujourd'hui. Or, nous savons que hier, c'est lui qui condamnait le régime de Kabila. Or, quand on condamnait le régime de Kabila, le régime de Kabila était constitué, des bourreaux étaient constitués de grandes personnalités, entre autres de Matata et consorts. Et donc, si on poursuit Matata, quand hier Matata était condamné, aujourd'hui, il cherche à bien suivre Matata. En tout cas, nous, on se pose mille et une questions.
Merci
donc,
beaucoup.
Voilà, voyez-vous donc, c'est vrai, nous ne pouvons pas tout rejeter, mais cependant, il faudrait vraiment analyser.
Voilà, donc vous partagez le point de vue de notre invité tout à l'heure, qu'il s'agit simplement d'un constat, ce sont des allégations, les rapports sont présentés au Conseil de sécurité. Il faut attendre parce que le Conseil de sécurité agit par voie de recommandation ou encore des résolutions. Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé de Kinshasa. Pierre, vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Pierre Moussafiri, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Pierre. Alors, trois questions qui sont dégagées par rapport à la préoccupation de Christian tout à l'heure. Est-ce que c'est une pression? Bon, il semble que ce n'est pas une pression parce que cela a été déjà fait également pour les régimes passés. Si ce sont les mêmes personnes qui sont citées aujourd'hui, que le Conseil de sécurité, pardon, le secrétariat général des Nations Unies qui considère que ce sont vraiment des victimes, je crois que c'est là le problème. Alors, Augustin Manguemos, comment vous réagissez?
Oui, mais je gère. Vous savez, ce problème, heureusement que notre auditeur, il a eu la manie de l'expliquer, hein, alors à l'après. Nous devons toujours partager les sentiments par rapport à la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que quand la justice fait son travail, on laisse la justice faire son travail. C'est à la justice de dire qui a raison, qui a tort. Et ce n'est pas au secrétaire général des Nations Unies. Ça, c'est clair. Hein? Il y a, vous savez qu'en diplomatie, il y a toujours ce qu'on appelle le droit de réserve. Hein? Donc, au fait, le secrétaire général devait se réserver par rapport à la question. Quant à la neutralisation des adversaires politiques, ça, c'est un problème purement politique. Il appartient à la partie congolaise de prouver, avec des preuves, que les allégations du secrétaire général sont fausses. Voilà. Sinon, si la partie congolaise n'intervient pas, vous savez que c'est un acquiescement.
Voilà. Alors, merci. On va prendre Pierre. Je crois que la liste s'est améliorée. Pierre, vous êtes avec nous?
Allô, JR, je vous écoute. Moi, je dirais que je ne suis pas d'accord de ces inquiétudes soulevées par le secrétaire des Nations Unies en RDC, Antonio Guterres, dans son rapport présenté lors du Conseil de sécurité des Nations Unies dans notre pays. J'allais être d'accord avec lui si il allait parler de la CENI avec la manque toujours de consensus et de la peur que la CENI soit
politisée. Toutes ces questions ont été évoquées. Toutes ces questions ont été évoquées.
Mais dire que la question de la loi sur la nationalité, jusqu'ici, ça n'a rien à voir sur l'organisation des bonnes élections dans notre pays. Cela ne peut pas empêcher certaines personnalités de se présenter comme candidat à la présidence 2023. Et d'ailleurs, cette loi semble être rejetée. Même le Premier ministre avait dit que cela n'est pas parmi les principes qu'on doit étudier sur cette question. Et ce qu'il a appelé pression judiciaire exercée sur certaines personnalités, je trouve que cela n'allait pas être figuré dans ces échéances en disant que cela peut priver à la RDC d'avoir des élections crédibles et transparentes. Car nous ne pouvons pas vouloir chercher un état de droit avec les intouchables pour les favoriser de se présenter comme candidat à la présidence 2023. Moi, je trouve que la seule inquiétude qui allait nous inquiéter tous, c'est d'avoir une CENI qui est politisée. Donc là, c'est là qu'on peut avoir
cette
inquiétude. Nous, dire que la pression exercée pour certaines personnalités, ça n'a rien à voir avec les inquiétudes que nous devons soulever, messieurs.
Voilà, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va prendre Amos. Kalo, vous êtes avec nous? Bonjour, Kalo. Voilà, on a des petits soucis également avec Kalo. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, on revient à vous. Est-ce que, Augustin, vous avez une réaction par rapport à ce que vous venez d'écouter?
Ouais, vous savez que, en fait, quand le dossier a été présenté, le secrétaire général a énuméré un certain nombre de points. Et les points qui sont sous examen maintenant, là, c'est lié à la nationalité et aux allégations de neutralisation des adversaires politiques. Moi, comme je vous ai dit, comme nous continuons à le dire, il appartient à la partie congolaise de prouver. Parce que le secrétaire général a fait un rapport. Savez-vous même que, je vous l'ai dit d'entrée, qu'il ne devait pas en temps normal s'attaquer à la justice congolaise. Parce que la justice d'un État représente ce qu'on appelle le socle même de l'État. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est même la souveraineté de l'État. Le secrétaire général devait avoir ce qu'on appelle les droits de réserve par rapport à la justice. Mais quand cela n'est qu'il, c'est les rapports qu'il a...
Présenté. Voilà. Alors, si vous le permettez, professeur, on va écouter Kalo. Je crois que la ligne s'est améliorée. Kalo, vous êtes en Mbujimayi. Oui, Kalo, vous êtes avec nous? Alors, voilà, 081-890-4969 ou encore le 081-890-4963-30. Là, nous avons en ligne, je crois, la ligne s'est améliorée. Kalo, vous êtes en Mbujimayi.
Oui, bonjour, Kalo. Je suis avec vous, messager, bonjour.
Comment réagissez-vous par rapport à cette question sur la présentation au Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général? Est-ce que vous pensez comme les autres qu'il s'agit là d'une pression?
Vous savez, monsieur Gér, moi j'ai toujours été contre les organisations internationales. Dans tout ce qu'ils sont en train de faire, moi je ne vois pas ces organisations apporter quelque chose dans nos pays de développement. Ici, je peux vous affirmer que le sous-développement sous-développement de nos pays sont liés aux organisations internationales. Prenons d'abord les cas récents pour le moment. Les rapports que le secrétaire vient de donner à l'Assemblée nationale, moi à l'Assemblée internationale, je peux dire, mais ces rapports-là, comment ils doivent se baser sur les histoires internes du pays? Quand il parle de la pression judiciaire, je suis contre cela. Il doit avoir des retenues. Ici, le Congo est un pays souverain. Lui, là, il est là, non pour la pression. Si aujourd'hui les gens détournent et qu'ils sont candidats à la présidence.
Oui, mais Kalo, nous sommes membres de Nations Unies. Nous sommes étant membres de Nations Unies.
Être membre, on doit voir dans nos relations, les relations sont bilatérales. C'est-à-dire, ici, ce sont des relations de coopération. Ce ne sont pas des relations d'imposition. Ils doivent connaître. Si aujourd'hui, moi qui vous parle, si j'ai détourné les deniers publics et je suis arrêté, bien que je suis candidat à la présidence de 2023. Lui ne peut pas s'ingérer dans les histoires pour juste une pression judiciaire. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas parler de la
En tant que partenaire, les partenaires ont également le droit de se soucier de la situation ou l'évolution politique sur le terrain, parce que bon, ils sont non seulement partenaires politiques, mais ils sont également partenaires techniques et financiers.
Mais c'est juste. Pourquoi il ne peut pas parler de la situation des siège? C'est parce que quand nous décrions ici, il y a l'état de siège qu'on a décrété à l'Est. On tue nos amis qui sont là. Lui, en tant qu'organisation internationale, en tant qu'ONU, lui, le secrétaire général. Pourquoi il ne peut pas se mêler, faire tout pour qu'il n'y ait pas de tuerie des Congolais à l'Est? Tellement pour la pression, pour être seulement les élections en 2023. C'est ce qui est essentiel pour l'organisation internationale des Nations Unies. Non, moi, je trouve qu'il est parti au-delà. Ici, il doit laisser les autres, d'autres choses s'effectuer normalement dans notre pays. Il doit quand même faire arrêter d'abord la guerre. Moi, je ne vois pas chez les gens d'Afghanistan, ils n'ont pas pu. Quelle est l'importance de l'organisation internationale aujourd'hui, au pays de l'ONU, à contribuer en quoi? Moi, je trouve qu'il est allé au-delà. En tout cas, quelle que soit sa qualité, moi, je trouve qu'il est là pour les autres pays développés. Et nous, les pays en voie de développement, monsieur.
Voilà, merci beaucoup. D'accord. Kalo. Merci beaucoup, Kalo, d'avoir accepté d'intervenir. Allô, Franck? Franck?
Oui, Gér, bonjour.
Vous êtes avec nous?
Oui, bonjour. Oui, je suis là.
Alors, lors de sa présentation au Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général a exprimé, au fait, quelques inquiétudes, dont notamment la loi sur la nationalité et la pression judiciaire exercée sur certaines personnalités politiques. Alors, comment commentez-vous cette actualité, Franck?
Oui, merci beaucoup pour la suggestion de cette thématique. Bonjour à vous tous au studio, à tous les amis avec qui nous allons nous échanger. Nous devons commencer par rappeler que un tel avis ne ferait pas l'unanimité de tous les citoyens congolais. Et je crois que même ici sur Rosan, nous aurons à les constater moyennant les interventions des uns et des autres. Cependant, si nous devons vraiment regarder la situation sociopolitique congolaise de l'intérieur sans nous montrer quelque part complaisant, il y a bien des faits et des tendances qui attestent de tels calculs. Personnellement, je ne cesse de me demander depuis quelques années si nous avons des hommes politiques avec le sens de l'histoire, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils pensent pour ce pays. Car souvent, quand ils sont en dehors du pouvoir, ils se font passer pour des bons gestionnaires, des meilleurs donneurs de leçons. Ils suscitent les espoirs auprès de la population qui les écoute. Mais une fois arrivés au pouvoir, une fois avoir obtenu un poste de responsabilité au sein de l'exécutif, même dans le portefeuille, nous nous rendons compte qu'on reprend toujours ce qu'on dénonçait, ce qu'on critiquait. Et c'est vraiment ça le mal congolais, parce que quand il y a un problème qui se pose, on doit arriver à l'analyser convenablement. Mais seulement quand on est complaisant, il y en a qui argumentent, pas peut-être pour analyser les vrais problèmes qui se posent dans notre société, il y en a qui hésitent d'aborder les vrais problèmes, ils abordent les à côté parce que soit ils préservent leur pouvoir, soit ils préservent un peu leur poche, quoi, donc ils pensent seulement à leur ventre. Mais si nous devons voir les histoires telles que ça se passe à l'intérieur, sans vraiment nous inscrire sur la même dialectique comme le secrétaire général de l'ONU, mon ami Gérard, il y a des problèmes qui sont là, qui nécessitent un peu de discernement, il y a des vrais problèmes qui se posent par rapport à l'avenir de notre pays. Parce que au lieu d'aborder les vrais problèmes, au lieu de trouver les vraies solutions aux problèmes qui se posent, nous sommes en train de voir nos gens se battre pour parfois des superficialités, des futilités. Alors moi, personnellement, je trouve que nous sommes en train de prendre des mauvaises pentes. Donc nous nous disons un état de droit, nous nous disons, nous voulons nous dire un état démocratique, mais cet état de droit, cet esprit, cette culture de la démocratie ou de la vraie démocratie, avec une culture de tolérance, du dépassement, du respect des opinions des autres et surtout de la soumission aux textes qui nous régissent. En tout cas, je ne vois pas. Je ne vois ni du côté de ceux qui sont au pouvoir, ni du côté de ceux qui se battent pour accéder au pouvoir.
Voilà,
Alors, nous avons une constitution qui ne sert que de tremplin. On se réfère à la constitution pour se donner raison. Mais quand on est en face de ses responsabilités pour appliquer la même constitution en vue de mettre de l'équité dans la vie, dans les sociales de tout le monde, non, on n'est plus là. Donc, on cherche à interpréter selon les calculs, selon les sodimeurs. Mais il y a beaucoup de faits qui le prouvent.
Et je crois que
sur place, là, vous voyez, nous suivons. Il y a beaucoup de faits qui attestent ce que le secrétaire général a émis comme vœu. Et pour moi, je trouve que c'est une interpellation qui doit nous faire raisonner. Donc, on ne doit pas seulement penser qu'il veut s'immiscer dans les affaires intérieures, mais il y a un problème, il y a des problèmes qui peuvent demain s'ériger en obstacle, en danger pour l'avenir.
Oui, mais Franck, nous sommes un pays souverain. D'aucuns estiment qu'il s'agit là d'une pression qu'on est en train de faire, disons, au régime en place.
Oui, mais mon ami Gérard, le fait de se dire nous sommes un pays souverain ne signifie pas que nous nous permettons de faire ce qui est même contraire à notre constitution. Moi, personnellement, comme analyste, ce qui m'étonne, nous nous disons pays souverain quand les autres interprètent ce que nous n'interprétons convenablement, mais quand nous sommes en face de notre convenablement par rapport à sa conception, par rapport à ses intentions. Non, je crois qu'on ne va pas aller se cacher derrière tous ces arguments. Quand ça va, nos citoyens congolais objectifs, nous disons que ça va. Quand ça ne va pas, nous devons aussi nous donner du courage pour
vous
dire que
ça
ne va pas et arriver à épingler là où se trouvent les problèmes et aussi faire des suggestions.
Voilà.
Pour moi, les suggestions ou la suggestion, c'est au niveau du mental. L'homme congolais doit encore se remettre en question. Il a quelle forme du patriotisme? Il a quelle conception des services qu'il rend à son pays? Parce que ça ne sert pas de se dire démocrate quand on veut se donner raison, mais quand on est en face de déficits par rapport à la même culture démocratique, on cherche encore à s'imposer par la violence ou parce qu'on est responsable et si on commence à intimider les gens. Non, je crois que nous sommes en face de dangers qui nous guettent.
Nous devons donc il y a déjà un danger, il faut prévenir.
Alarmer et nous devons et trouver des solutions. Attention. Donc, je crois que le secrétaire général a dit des choses
qui sont, vraies.
Sont aussi vraies et nous devons, nous, citoyens congolais, le voir du bon côté pour arriver à nous réorienter.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. On va essayer à nouveau la ligne de Amos. Amos, vous êtes avec nous? Voilà. On revient à vous, Augustin Manguem aussi. Vous avez suivi Franck qui dit, en tout cas c'est vrai, la souveraineté c'est bon, mais il faut aller au-delà de l'interprétation de cette de ces allégations.
Oui, monsieur J.R., je pense que depuis le 17e jusqu'au 20e siècle, la souveraineté des États a constitué le principal fondement du droit international. C'est-à-dire malgré les critiques qu'on peut formuler à l'endroit de l'État, vous devez comprendre que l'État est d'abord souverain. Les résolutions, les recommandations prises par soit le Conseil de sécurité des Nations Unies ou l'Assemblée générale des Nations Unies s'appliquent suivant l'école moniste du droit international. Néanmoins, vous êtes sans ignorer qu'en politique, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Chaque État poursuit ses propres intérêts. L'organisation interne d'un État n'a pas de rapport avec l'ONU au nom des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Mais c'est plutôt s'il y a risque de génocide, crime contre l'humanité, là on peut invoquer le principe de la responsabilité de protéger ou des droits d'ingérence humanitaire. Dans le cas d'espèce, l'on parle d'une situation qui est interne à un État. La loi sur la nationalité est du ressort du législatif congolais. La justice, c'est la justice congolaise. S'il y a des conseils au fait ou des recommandations, la RDC le prendra en compte. Mais sinon, on ne peut pas dicter à la RDC la manière de voter sur la scène internationale. Ça, c'est ce qui est clair, c'est ce qui est clair. Et que ça va être banni. On ne peut pas parler de l'Afrique comme si l'Afrique avait les 54 États, c'était un État. Non, nous avons 54 États qui sont souverains. Chaque État a sa forme de gouvernement, chaque État a ses propres réalités, chaque État a sa manière de voir l'avenir. Parce que vous avez un certain nombre d'États d'Afrique qui ont commencé à émerger, mais vous avez un certain nombre d'États qui continuent à patauger. Et vous allez les classer dans le même panier. Non. Le problème lié aux élections, est-ce que c'est une panacée? Les élections, c'est dans 2023. Les élections auront bel et bien lieu. Et on sait que le chef de l'État a dit lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais maintenant, est-ce qu'il faudrait qu'on commence aujourd'hui à neutraliser un certain nombre des adversaires? Non. 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 Au nom de la liberté d'expression, de concourir, on ne peut pas neutraliser qui que ce soit. C'est-à-dire, moi je pense sincèrement qu'il ne faudrait pas plutôt jeter tout ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit, voyez les rapports, tirez les bons, enlevez les mauvais. Voilà.
Merci, professeur Augustin Manguem. Aussi, on va prendre d'ailleurs Maître Edmond qui nous a rejoint également. Maître Edmond, vous êtes avec nous?
Bonjour, la radio Capri. Je salue l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que la question, les inquiétudes soulevées par le secrétaire général des Nations Unies ne s'articulent pas sur la non-tenue des élections. Je pense que dans son rapport ou dans ses inquiétudes, il est en train de décrier certains comportements actuels qui peuvent mettre en jeu les élections de 2023. Parce que vous allez voir qu'il a évoqué par exemple deux aspects. Le premier aspect est lié sur la loi sur la nationalité et le deuxième aspect sur les différentes arrestations perpétrées à l'encontre, entre guillemets, des opposants ou des personnes. Qui doivent se présenter aux élections présidentielles, par exemple, en 2023. Je pense que sur la première question sur la nationalité, je pense que c'est avec raison que le secrétaire puisse décrier ce comportement. Lorsque M. Noël s'en a initié cette loi, lui ne savait pas que cette loi, c'est une loi qui est inconstitutionnelle, nous devons débuter d'abord à réviser la Constitution, nous devons réviser la loi électorale et consorts. Donc, si vous voyez bien, ce candidat malheureux, Noël Tchan, il a fait ça. C'est justement pour essayer de freiner les personnes aujourd'hui qui se sentent capables, que la population apprécie, les personnes qui peuvent être de meilleurs candidats en 2023. Voilà. Et puis la deuxième question sur les arrestations. Mais c'est avec raison. Nous avions vu ici, il y a des personnes qui sont arrêtées, condamnées pour incitation à la désobéissance civile contre une loi qui est en gestation, qui n'est pas discutée, qui n'est pas votée. Donc tout ça, c'est pour anéantir, pour éliminer, essayer un peu d'étouffer les personnes qui peuvent quand même, en 2023, se représenter et gagner les élections. Voilà pourquoi c'est là où tourne. C'est là où pivotent maintenant les inquiétudes que nous n'aurons pas des élections transparentes et démocratiques. Les élections auront bien liées. Donc ce sont des choses qui sont quand même claires. Ça ne veut pas dire que les élections, comme on l'a toujours dit, c'est comme un slogan, les élections auront lieu. Oui, les élections auront lieu en dépit de manœuvres que les confessions religieuses sont en train de nous embourber. Mais nous pensons que la vision du chef de l'État est que les élections aient lieu. Mais c'est quel genre d'élection? Nous voulons que les élections soient transparentes, qu'on laisse tout le monde. Nous sommes dans une période préélectorale, que les personnes s'expriment, que les personnes puissent faire des meetings, des manifestations, afin de pouvoir caporaliser leur électorat. Et ça sera une bonne chose. Et nous allons quand même apprécier le chef de l'État si vraiment, en 2023, tout le monde se représentait, au lieu d'utiliser la justice, d'utiliser le service de sécurité pour essayer un peu d'opprimer les personnes qui se sentent capables de postuler en 2023.
Voilà, merci beaucoup Maître Edmond. Alors, on va écouter Maître Paty Lendo, Maître Paty Joseph Lendo. Vous êtes avec nous, bonjour Maître Paty.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Alors, le fait que le secrétaire général ait présenté quelques inquiétudes dans son rapport, présenté au niveau du Conseil de sécurité, les inquiétudes qui prennent en compte notamment la loi sur la nationalité et la pression judiciaire exercée sur certaines personnalités politiques comme un moyen de neutraliser des éventuels candidats présidents. Alors, est-ce que ces inquiétudes, selon vous, se justifient-elles?
Non, mais il faudrait, merci d'abord, il faudrait aussi apprendre à faire le distinguo dans certains concepts. Vous avez bien dit que le secrétaire général n'a fait que manifester quelques-unes de ses inquiétudes, mais une inquiétude reste une inquiétude et chacun en a autant. Mais néanmoins, ça nous aurait préoccupé si il présentait ses inquiétudes en termes d'évidence. Et voyez-vous, les évidences, on ne les discute pas, mais les inquiétudes, ce sont des supplications de l'esprit. Et l'esprit, qu'il soit du secrétaire général ou de je ne sais qui, ce n'est qu'un esprit qui est lié à la personne qui porte l'esprit. Donc voilà en fait. Mais le grand problème, c'est que ce n'est pas de l'extérieur qu'on aura des élections ici. Nous devons apprendre à nous assagir davantage. Nous en sommes à notre troisième cycle électoral, si ma mémoire est encore bonne. Mais néanmoins, nous devons plus nous comporter à des petits en cette matière électorale. Nous n'avons plus de raison de tenir coûte que coûte des uns et des autres. Faisons du sérieux. Dans la maison, prenons la dimension des enjeux et que chacun se mette à travailler comme dira le latin. Nunc laborare oporte. Maintenant, c'est le temps de préparer. Ceux qui sont au pouvoir se préparent à conserver davantage le pouvoir. De quelle manière? C'est le coderat demonstrandum. Ceux qui ne sont pas au pouvoir se préparent à leur manière à accéder au pouvoir. De quelle manière? C'est aussi cela le coderat demonstrandum, ce qu'il faut démontrer à l'opinion. Mais ce qui est malheureux au Congo, je me rends compte que les jours passent, les années passent, mais le Congo ne veut pas voir l'évolution à travers le temps. Le Congo veut se présenter à la face du monde comme une société pratiquement figée, une société où l'intelligence est pratiquement tarée. Donc on ne peut plus rien espérer du Congo et du Congolais. Je pense que les inquiétudes du secrétaire général, nous devons ou je lui dois le respect de ses opinions ou de sa conception de la chose congolaise, mais cela ne doit pas nous faire émouvoir outre mesure, cela ne doit pas nous enlever le peu de droit au repos auquel nous avons droit, passez-moi la tautologie.
Mais est-ce que le silence du régime en place se justifie? Et qu'est-ce qu'il y aurait
je ne masserai pas le mot là-dessus. Il y a un problème de communication sérieux dans notre manière de faire. Et voyez-vous que les secrétaires généraux en soient arrivés de manière pratiquement, je dirais, claire et mécanique, sans trop de rebours diplomatiques, à fustiger des choses en termes d'inquiétude. Mais c'est là. Ne doit pas être laissé comme ça. Cela mérite une thérapeutique médiatique à la dimension de la personne qui a porté cela à travers le monde. Voyez-vous un peu cela. Souvenez-vous, à un moment donné de l'histoire de notre pays, puisque l'histoire ne nous enseigne plus, c'est ce qui est malheureux, puisque tout le monde est politicien au Congo. Alors, j'ai saisi l'occasion pour rappeler une chose de fondamentale. Thomas Kanza, dans son livre « The Fall of Rights of Patrice Emery Lumumba », publié en 1971, Thomas Kanza l'avait même rappelé à la Conférence nationale souveraine, d'heureuse mémoire bien sûr. Thomas Kanza avait dit quoi? Il faut que nous arrivions à tamiser le politique congolais, l'homme politique congolais. Thomas Kanza disait, je cite, « Ne peut être politique au Congo que celui qui a les trois dimensions de ce pays. » Et Kanza insistait là-dessus, la dimension géopolitique. Mais nous sommes géostratégiques, même allais-je dire. Nous sommes le seul pays d'Afrique avec 9 voisins. Nous avons des lusophones, nous avons des francophones, nous avons des anglophones. Cela déjà doit impacter sur la qualité de l'opérateur politique. Mais on nous présente pratiquement chaque jour des dessins animés, chaque jour des caricatures théâtrales au nom de sur la scène politique congolaise. Deuxième dimension, mais les richesses de ces pays. Il faut dire que le politicien congolais, à tous les niveaux qu'il veut se présenter, qu'il se rende compte que le Congo, c'est comme la plus belle fille du monde.
Qui ne peut donner que ce qu'elle a.
Nous avons le cuivre, et c'est lui qui vous parle. C'est un des experts en droit minier congolais. Nous, je fais 8 ans au cadastre minier, je sais de quoi je parle. Donc l'or, le cuivre, tout ce que nous avons dans le tableau de Mendeley, les chimistes en savent trop. Nous avons tout ça ici au pays. Mais le politicien congolais, a-t-il la dimension de ces richesses-là lorsqu'il veut s'affirmer, lorsqu'il veut parler, je ne vois que de la péroraison à la place des discours politiques porteurs, voyez-vous un peu cela. Et la troisième dimension, disait encore Thomas Kanza, mais ne fût-ce que l'étendue du pays, la superficie de ces pays, avec toutes ces richesses naturelles. Mais nous devons avoir de politiciens, le peuple doit être regardant dans le choix de ces politiciens, dans le choix de ces gens de vote, vous parlez vote. Au lieu de voir seulement les élections apaisées, mais que les Nations Unies nous aident à avoir des élections sérieuses, des élections classiques, des élections orthodoxes, où les gens, les opérateurs politiques ne viendront pas accepter la conscience de l'électorat, mais l'élection, ce sont des débats. Nous sommes, oui, vous l'avez dit, en pré-année électorale. Mais nous ne devions pas avoir des accrochages inutiles. Nous devions voir des débats dans nos médias, des débats politiques constructifs, des débats politiques qui puissent rappeler à des gens, les méritocrates comme nous, que nous avons encore des gens sur lesquels nous pouvons compter. Les débats politiques tournent autour des gens. On a du mal à comprendre les politiciens avec les jeunes gens que je vois dans des émissions de musique les dimanches, la chronique musicale, où l'on vient faire le Mouangaï, un tel. Ah non. C'est cela aussi, voilà. Nous disons à nos amis occidentaux, ils doivent nous aider. Au lieu de continuer à faire seulement le relais des Congolais qui n'ont jamais compris que nous sommes Congolais à 61 ans, même si nous avions encore nos parents en vie, mais nous devons nous démarquer de nos parents. Même si nous avions des amis américains, en tout cas moi qui vous parle, j'en ai autant, français, belge, mais je ne peux pas parler du français, des choses pratiquement qui relèvent de la souveraineté de mon pays. Et je n'accepterai pas qu'un ami français m'invite dans un restaurant pour se mettre à critiquer tout ce qui se passe à mon pays. Ne fût-ce que par sursaut d'orgueil patriotique. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que certains amis font, de l'intérieur du pouvoir comme de l'extérieur du pouvoir, mais je suis quand même fier de moi-même. Je suis fier d'être Congolais. C'est ce qui nous manque aussi. Nous sommes le pays où le politicien se mesure par rapport, il a déjeuné avec tel ambassadeur, où les ambassadeurs deviennent des rois ici. Même les ambassadeurs deviennent des rois. Tous de vous quitter ces terrains-là, et pour ce faire, mais il faudrait que vous aussi, les médias, vous arriviez à faire des émissions, des séquences, pour arriver à dépeindre quel doit être l'homme politique d'un pays.
Voilà, je crois que.
Merci
beaucoup de nous avoir proposé ça. Merci beaucoup, Maître Paty, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Alors, François, vous êtes avec nous, François?
Oui, bonjour, je suis Lungembo, bonjour, madame Jocelyne, bonjour, Radio Capitre Monde, qui est avec
vous. Vous avez la parole, François. Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est un bon rapport établi par le CGE afin de donner une vision au Conseil de sécurité de l'ONU de pouvoir conseiller tous les acteurs politiques, sociaux et de la société civile pour une cohabitation pacifique, pour des élections libres, démocratiques, crédibles, apaisées et modèles pour un État digne des droits. Et je félicite le chef de l'État car pour lui, la loi sur la congolité, certains pensaient que c'était une politique de sa part, voulait dire, pour écarter les candidats présidentiables. Il ne voit aucune importance de son adoption. Donc ici, je voulais interpeller une fois de plus les camps de caste, ou particulièrement nos amis de l'IDPS qui pensent qu'il faut nécessairement que cette loi puisse être alignée et adoptée pour écarter certains candidats potentiels. Ce qui est important, c'est que de donner la chance au chef de l'État actuel de faire les miens, de donner les meilleurs de lui-même, afin que même s'il y a des candidats qu'on trouve qu'ils sont gênants, mais ils doivent toujours gagner les élections, M. Gilles Lungembo.
Voilà, merci beaucoup. Alors, on revient à vous, professeur Augustin Manguebossi. Vous avez suivi les uns les autres. Quelle est votre réaction?
Monsieur Gilles, j'ai aimé les interventions de tous nos amis. Hein. Il faut commencer d'abord par réinventer l'homme congolais. Hein. Vous voyez ce que notre ami venait de souligner tout à l'heure. Là. Nous sommes en train de nous apitoyer sur les rapports des certains gens du Conseil de sécurité. Est-ce que vous avez le Conseil de sécurité au Congo? Est-ce que le Conseil de sécurité est là maintenant au Congo? Et même si le Conseil de sécurité prenait une résolution dans le sens de condamner les Congolais, l'impact, les conséquences, vous avez vu une prison et que le Conseil de sécurité des Nations Unies, il appartient aux Congolais de pouvoir d'abord réinventer une autre forme de gouvernance. Nous devons carrément changer notre manière de voir la démocratie. Il faut avoir un sursaut patriotique, un sursaut d'orgueil. Notre ami venait de parler même des médias, de vous aussi les médias, des débats politiques. Parce qu'on ne sait pas les qualifier. Donc au Congo, tout s'est fait comme si on était du côté de la folklore, alors que c'est l'avenir du pays qui compte. La finalité, c'est que nous arrivons d'abord à faire ce qui est sérieux. Voyez aujourd'hui, nous sommes devant un pays qui est en train de voir comment s'en sortir. Mais avec de tels rapports, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'il y ait une réponse du ministre des Affaires étrangères. Il faudrait qu'il y ait une réponse du représentant spécial qui est à l'ONU. Il faudrait qu'il y ait une réponse. Une réponse, et pas simplement une réponse, mais il faudrait aussi que nous tirions les conséquences du rapport. Parce qu'il ne faudrait pas répondre pour répondre. Il faut plutôt répondre avec des arguments et tirer aussi les conséquences. Si les choses ne vont pas, il faut quand même les améliorer. C'est ça aussi la démocratie. Moi, je pense que nous sommes un pays assez mature, 61 ans après. Il faudrait maintenant voir de quel côté nous devons.
Mais vous êtes spécialiste en géostratégique. Il y a quand même des certaines vérités dans ces allégations.
Oui, mais je vous dis, voilà, les allégations, ce sont les allégations du secrétaire général. Moi, je ne dirais pas que ce sont des allégations fondées. Il appartient à l'opérateur politique, c'est-à-dire au gouvernement congolais, de pouvoir apporter un démenti ou carrément les éclaircissements. Mais moi, je voudrais plutôt entendre le secrétaire général de l'ONU nous dire, nous donner des détails sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ça c'est ce qui préoccupe les Congolais. Vous avez un pays exsangue depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. L'action de l'ONU est toujours là. Mais quelle est la conséquence? S'il y a un rapport, l'on doit commencer d'abord par là aussi. Parce que si aujourd'hui nous n'avons pas presque un État, dans le sens du terme même, mais c'est parce qu'il y a une insécurité qui date. Et c'est cette insécurité-là qui met l'État en difficulté. Prenez un exemple. L'État fait des recettes, mais ces recettes vont à l'effort de guerre. Qu'est-ce que l'État va se développer? Ça, ce sont des questions de fond. Et puis, de deux, quand vous condamnez un État, vous condamnez, parce que là, l'État n'est pas condamné. Ce ne sont que des allégations. Mais si par malheur, vous condamnez un État, mais pour tirer quel bénéfice?
Mmh. Il faudrait plutôt que ces recommandations soient étudiées par l'homme politique congolais. Moi, je soutiens que l'État congolais a aussi sa part de responsabilité. Il appartient à notre ministre des Affaires étrangères et au représentant spécial d'apporter ce qu'on appelle d'abord un démenti et puis d'éclairer la lanterne du Conseil de sécurité. S'il s'avère qu'il y a des allégations qui sont fondées, il faudrait plutôt modifier notre sens de voir aussi la gouvernance du Congo. C'est aussi important. Lui, le secrétaire général, il a écrit un rapport, mais notre représentant là-bas va aussi s'exprimer. C'est là où nous allons comprendre. Mais le plus grand problème, c'est l'organisation de l'État Congo. Ce qu'on appelle la gouvernabilité de la RDC. Mmh. Est-ce que nous sommes gouvernés dans le sens de pouvoir répondre à ces organisations internationales? Mais ces organisations internationales sont créées avec des intérêts aussi. Il y a un certain nombre d'objectifs, mais qui cachent aussi les intérêts des puissances. Ça, nous le savons. Ça, nous le savons. Écoutez, la résolution peut ou ne pas passer. Hein. Mmh. Il peut parler. Si les Américains ne sont pas d'accord, ça ne va pas passer. Si les Français ne sont pas d'accord, ça ne va pas passer. Mmh. Si les Chinois ne sont pas d'accord, les Russes ne sont pas d'accord, les Britanniques ne sont pas d'accord, ça ne va pas passer. Alors vous voyez vous-même la question des intérêts qui peut poser les problèmes, mais la conséquence est toujours le Congo. Que ça ne passe ou pas, quels seraient pour le Congo les bénéfices? Nous devons quand même aller de l'avant. 61 ans après, comme notre collègue qui a fait 8 ans au cadastre minier a bien parlé, il faut voir aussi l'homme politique congolais, que l'homme politique congolais voit quand même le besoin de la nation.
Voilà, merci beaucoup professeur Augustin Manguemossi d'avoir accepté d'interagir ensemble avec les auditeurs dans cette émission, consacrée à le rapport présenté par le secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité qui, au fait, évoque quelques inquiétudes, notamment sur la loi, sur la nationalité et la pression judiciaire exercée par certaines personnalités politiques comme un moyen de neutraliser des éventuels candidats présidents. Alors, merci à tous d'avoir participé à ces débats. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.